Je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Aïe, salut les amis, salut à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Montaigne Was a Thug, émission de rap, littérature et révolution sur le 102.2 de Radio Canu. Alors bon, deuxième émission de l'année, où on va déplorer un peu cette année un peu de merde hein, qui commence mal, sous le signe de la mort de nos plus grandes stars. Hein, on a perdu qui cette année les amis? On a perdu Michel Galabru. Michel Delpech.
Oh, malheureusement.
Alan Rickman.
Eh oui.
David Bowie.
Oh là là.
Nicolas Sarkozy.
Oh, oh popo.
Eh non, les gars, c'est vraiment une année de merde. Même Sarkozy, il est toujours là.
Oh.
Donc, on a perdu les meilleurs. Et surtout, on a perdu le meilleur de tous nos chroniqueurs, les amis. Hein, je suis désolé, hein, il faut rester humble, les gars. Eugène Yonegro, Albert Tabu. On a perdu le meilleur. On a perdu Bertrand Fibien. Hein. Et c'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui sera uniquement consacrée à la mémoire de Bertrand Fibien. Et cette émission, elle va commencer par le récit de la mort de ce grand homme. Bertrand Fibien n'était pas véritablement humain. Il était de ces êtres protéiformes, à l'apparence étrange. Son faciès avait la candeur de la rainette et sa bouche la bave du crapaud. C'est d'ailleurs la mononucléose qui l'emporte aujourd'hui. Cocasse pour un monomaniaque dont la passion était de galocher des grenouilles à monoprix en prononçant des monosyllabes. Croix, croix. Il avait un rapport particulier à la nature, qu'il connaissait très intimement. Il avait développé une sorte d'acuité sensorielle à toute épreuve qu'il réutilisait lors de ses lectures, ses commentaires de texte, ses interventions nombreuses et pertinentes dans notre belle émission de Montaigne Was a Thug. Il aurait dû nous parler aujourd'hui de Stéphane Mallarmé, ce poète obscur qu'il était sans doute le seul à comprendre. Un poète face auquel nous, pauvres humains, étions si mal armés.
Oh.
Désolé Bertrand, j'ai pas pu m'empêcher cette blague pourrie. Bertrand, je suis sûr que tu nous entends. Je sais que désormais tu virevoltes dans l'au-delà, chevauchant, oui chevauchant, les batraciens célestes. Bertrand, je t'entends. Bertrand, tu me parles. Mais, Bertrand, tu rappes. Et oui, c'est le rap de Bertrand Fibien, ma gueule. Aïe, Bertrand Fibien sur Radio Canu. Il est là, il est mort, il est au paradis. Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Mettez des grenouilles dans la bouche de tous nos opposants. Virez à coups de frog, kick tous les faux qui viennent se recueillir. Je veux démonter moi ce tuck que mon flow puisse épanouir. Peut-être comprendront-ils le sens de Crébillon, fils, la différence entre Mallarmé et le gros Charisse. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, y'aura pas de puceaux velus, juste des poteaux velus. La presse people n'aura que des Ricards et des baliers, des costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. Si j'y Bertrand Fibien, initial PB. Juste un mec qui a voulu que la vie d'autrui soit comme un putain de whisky. C'était le rap de Bertrand Fibien, direct du paradis.
Magnifique.
Et oui, c'était ça, le gros son de Bertrand Fibien qui nous parle en direct du paradis. Donc nous déplorons aujourd'hui cette mort catastrophique de Bertrand Fibien qui nous parle en rap et qui ne pourra donc pas mener cette magnifique émission sur Mallarmé qui nous avait tant promis à Eugène Yonegro, à Albert Tabu, à nous tous ici présents. Compliqué, hein, compliqué. Nous pleurons aujourd'hui cette mort. Et c'est pourquoi nous allons écouter une chanson en l'honneur, une fois encore, de de Bertrand Fibien qui a disparu. Une chanson de Renaud qui parle de la mort des enfants. Parce que Bertrand Fibien, s'il aimait beaucoup les grenouilles, n'aimait pas du tout les enfants.
Chiffon imbibé d'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. S'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes, morts les enfants de la guerre, pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade, quelques vieux mâles, imbéciles et gravataires, se partagent du enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Mort les enfants de la haine, près de nous, plus lointaine. Mort les enfants de la peur, chevrotine dans le cœur. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Or les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Or les enfants de ces vaisseaux, or les arbres, les oiseaux. Or les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août. Papa picolait sans doute deux ou trois verres, quelques gouttes. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires, se partagent l'univers. Qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues. La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, grenade, regardons au ministère, sous les gravats et
toujours sur Radio Canu, avec Albert Tabu cette fois-ci au micro. Et je vous rassure tout de suite, Renaud n'est pas mort, même si le mois de janvier a plutôt mal commencé. Hommage à Michel Delpech, Galabru, David Bowie, René de Céline Dion, et bien sûr, Bertrand Fibien. Mais je vous annonce plutôt une bonne nouvelle. Et bien voilà, c'en est fini de l'alcool pour le chanteur Renaud Séchant qui, après 109 jours sans boire une seule goutte d'alcool, se décrit lui-même comme un phénix renaissant de ses cendres. On applaudit tous Renaud. Allez,
bravo Renaud.
Bravo Renaud, bravo à toi. Même si on se doute bien que lorsqu'il parle d'alcool, il s'agit d'alcool fort uniquement. Si je vous parle de cette bonne nouvelle, c'est parce que j'ai une deuxième bonne nouvelle, ou plutôt une nouvelle qui peut être bonne pour certains et mauvaise pour d'autres, qui concerne directement notre ami défunt Bertrand Fibien. Des scientifiques de l'université Paris-Sud viennent de prouver que l'excès d'alcool n'est pas pour tout le monde un facteur de maladie. En effet, ce qui déclenche selon eux une maladie du foie comme la cirrhose n'est pas uniquement une trop grande consommation d'alcool, comme on le croit tous, mais c'est aussi dû à notre microbiote intestinal. C'est donc l'heure aujourd'hui de la chronique santé. Après un long week-end de débauche qui s'est terminé hier soir, je me suis posé une question fondamentale et métaphysique que nous nous sommes tous déjà posée. Serais-je capable de passer un jour de plus, une semaine de plus ou toute une vie sans m'arrêter de boire? Pour les scientifiques de l'Université Paris-Sud, la réponse est « c'est possible ». Toutes les personnes ne sont pas égales devant la toxicité de l'alcool sur le foie. Il y a, comme dirait notre cher docteur Fibien, des forts et des faibles. Et je suis bien navré de vous avouer aujourd'hui qu'après l'inégalité sociale contre laquelle on se bat ici chaque jour, il existe une autre inégalité, celle du risque de la toxicité de l'alcool. Quelle tragédie! Comment cette inégalité s'explique-t-elle? L'autre facteur déclencheur de maladies hépatiques, c'est-à-dire du foie, est notre microbiote intestinal, nous disent ces scientifiques. Mmh. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la flore intestinale et qui représente l'ensemble des micro-organismes. On parle de plus de 100 000 milliards de bactéries, c'est-à-dire un nombre plus important que celui des cellules. Et ces micro-organismes sont présents dans notre tube digestif, c'est-à-dire l'estomac et l'intestin.
En fait, ce seraient des sortes de petites bactéries là, qui pollueraient notre... qui viendraient renforcer notre estomac.
Ça pollue pas, oui, voilà, ça renforce plutôt en fait. C'est une sorte de résistance. Parce qu'on parle souvent de bactéries, on se dit c'est ce qui nous rend malade, les bactéries. On en a sur les doigts, on en a partout, c'est sale, c'est... voilà. C'est pas... Mais non, là ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de... Donc, comme toutes les bactéries, de petits bâtons, c'est l'étymologie, je crois, grecque du mot, qui sont invisibles à l'œil nu et qui constituent une sorte d'organe à part entière dans l'organisme humain. Et la relation qui existe entre l'hôte humain, c'est-à-dire notre propre corps, et ce microbiote est décrite par les scientifiques et par la communauté scientifique comme un mutualisme, c'est-à-dire une sorte de coopération entre ces deux agents, donc le corps et le microbiote, qui peut aller jusqu'à la symbiose ou jusqu'au désaccord profond. On est tous témoins, après avoir mangé un bon kebab assaisonné de quelques gouttes de tabasco, que ça se passe très mal. Juste pour l'anecdote, ces bactéries pèsent plus d'un kilo dans l'intestin humain et s'étendent sur une surface de 400 mètres carrés.
Ah, c'est grand.
C'est gigantesque. Et ce qui est encore plus génial, c'est que nous avons chacun une composition particulière de ces bactéries. Ou pour le dire autrement, nous avons chacun notre microbiote, qui est un peu comme une sorte de Goa'uld, pour ceux qui connaissent.
Oui, ces monstres qui sont dans notre ventre et qui grandissent un peu.
Voilà, c'est un petit peu comme ça. Or, les patients atteints d'une hépatite alcoolique aiguë comme la cirrhose présentent un déséquilibre du microbiote intestinal appelé dysbiose, nous disent les scientifiques. Donc en gros, si notre microbiote est fragile, l'alcool peut nous tuer. Si notre microbiote est plutôt du genre hyper-résistant, c'est fiesta tous les jours. Et le plus génial dans cette étude, c'est de savoir comment cette thèse a été vérifiée. Les scientifiques ont humanisé des souris en leur implantant des microbiotes de patients alcooliques. Un groupe de souris a reçu le microbiote des alcooliques faibles et l'autre a reçu celui des forts. On a ensuite alcoolisé les souris. Donc imaginez la bonne tranche de rire qu'ils se sont payés. Et ils ont constaté que les souris du premier groupe, donc celui des alcooliques faibles, avaient une inflammation du foie. Cette expérience nous permet de vérifier la thèse du jour, mais elle nous permettra peut-être de soigner les maladies qui sont liées à une trop grande consommation d'alcool, puisque notre microbiote intestinal est modifiable. Je cite le magazine en ligne technosciences.net. Or, la composition du microbiote intestinal est modifiable par l'alimentation, par les prébiotiques, les probiotiques ou encore un transfert de microbiote fécal. Par ailleurs, ce type d'expérience montre qu'il est possible de transférer la susceptibilité à l'alcool de l'homme vers la souris par l'intermédiaire du microbiote intestinal et permet d'envisager la mise au point de traitements de ce type. Je suis allé voir sur Internet la définition de la transplantation du microbiote fécal qui est « La transplantation du microbiote fécal consiste en l'introduction des selles d'un donneur sain dans le tube digestif d'un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de l'hôte. »
Vivicaire.
Oui, c'est ça.
C'est ce qui...
Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Conclusion. Ces travaux prouvent donc que la susceptibilité individuelle à la toxicité hépatique de l'alcool dépend au moins en grande partie du microbiote intestinal, contrairement à ce qu'on pensait. Traduction, je peux être à la fois alcoolique et immortel, seulement si j'ai une bonne assurance microbiotique. mais vous n'êtes pas obligé de devenir alcoolique. En tout cas, prenez soin de votre microbiote et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle chronique santé où nous nous pencherons sur le problème de la mycose vaginale. D'ailleurs, en parlant de mycose vaginale, si vous pouviez voir ce que je suis en train de voir.
C'est ce que je viens de voir rentrer dans le studio, une mycose vaginale géante.
Bertrand Amphibien a ressuscité, les amis.
Oh, résurrection. Tout le monde a cru, et nous aussi, nous étions très peinés en ce début d'émission. Nous avons annoncé, parallèlement à la mort de Michel Galabru, Michel Despeche, machin bidule, les trucs, tous ceux qui sont morts, la mort de Bertrand Amphibien. Mais non, Bertrand Amphibien, que s'est-il passé? Vous avez ressuscité.
Et oui, il faut croire que je suis immortel. Je ne meurs jamais.
C'est fort. Je pense que oui. Votre résurrection marque bien que l'année 2016 ne sera peut-être pas si pourrie que ça, que les miracles sont encore possibles, n'est-ce pas?
Ouais.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va s'écouter un petit son miraculeux, un petit son du rap, un petit son du rap game qui est parti dans Montée de Moisetteg.
Check. Ok, tous prêts à se battre, un peu se larver. Putain, homme triste, vent au cœur, pris à débattre, un peu servi. Elle nous prend pour des singes, donc la chance saute d'arbre en arbre. J'ai perdu trop de gens, moi je suis une sorte de soldat Ryan. Laisse tomber ces baisers, ça y est. On sait que tu bats ta femme, on sait bien qu'elle est pas tombée dans les escaliers. Et on est bien d'accord, t'es un bâtard. Aussi sûr que la pièce du SDF, c'est pas un apport pour un appart. Non, me parle pas de fair play. Tu connais 3-4 versets sur terre, pas d'adversaire, tu mets des patates vers ciel dans la zig, pas de réseau, on m'a dit bah je suis bouic. Les semaines de taf, ouais sont dures, c'est pas des fashion week. Fais gaffe ma soeur, il peut pas te ken, alors il gifle. Les images sont fortes, c'est pas Pat Luken à la régie. Un bloc de glace peut se liquéfier, bonne de bamboclate, Rihanna peut finir caissière. Si je le regarde droit dans les yeux, je crois que je peux niquer le ciel. Quand la vie tire trop, sort la laisse, là je me dis qu'elle chienne.
Chienne de vie.
Je mets un short, je tape le foot avec des gens, t'appelles You, et t'aimerais voir pendu comme George W. Saddam. Faites pas genre, tapez-vous, tout short après vous. Je touche les grades, ciel comme Jordan ou Osama. Je garde le faux, c'est intact, né pour défoncer c'est un mic. Moi et mes défauts, c'est un pack, mais tu me trouves pas. Pas mal, je les envie, 40 ans, père et mère en vie, optimiste, je vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. Je les envie, moi 40 ans, père et mère en vie, optimiste, je vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. L'amour, ça t'adoucira ou te tuera. Esquiver la prison, ça tient du miracle ou du Chirac. Parfois, la vérité, j'agonise, la vérité, je doute. RIP, j'agomise, RIP, bigou. Et il paraît que les types bien savent perdre. Oh, de là-haut, Victor Hugo m'a dit, oh, t'écris bien. Sale nègre, le bruit, l'odeur, les tirailleurs. Ça c'est nous, je crois, Alibaba et les 40 auteurs. Ça c'est nous pour moi. Tu meurs à se venger façon Kill Bill. T'as du plomb dans l'aile et dans ton frisbee. Et t'as ton chanson Trisbis. Si t'es fan, t'es sans doute riche en bootleg. Ce qui est beau et précieux, moi j'ai vu le sang du Christ en bouteille. J'y arriverai, hein, peu importe mon thème astral. Regarde-moi bien, je vise bien. Boum bam, thème strike. Ça va finir en banlieue, cimetière communal. Les temps changent, bientôt les hétéros feront leur coming out. C'est pas une caresse mais une manche et yo. Y'a la prudence et le destin. Cimetière et plein de gens qui mangent bio. Putain les frères, écoutez-moi. Moi petit, je rêvais d'un gun. Si tu me cherches, crois que j'aurai mon rêve au bout des doigts. Quand je serai KO, qui me donnera une pièce? Personne demande leur marché entier. Je suis pas une jazz, personne. Je veux le paradis pour les miens. T'as raison, je t'aimante trop. J'aimerais finir la journée, eux les saisons de Game of Thrones. Je vous regarde de haut, je sais que t'as sûrement vu passer mon drone. Qu'on me rende ce qui m'est. Ça c'est ma maison, c'est mon trône. Surfer, non, j'allais en classe avec mes requins. Surfer, non, toujours en clash avec les refrains. L'espoir pour un pauvre, c'est le rêve, non, pour un faux. Dans le rap, on me disait d'être moi, je paye un impôt sur les revenants des avoirs. C'est ce qu'il nous faut pour être niveau plume, y'a du niveau, c'est nouveau, nouveau poète. Tu sais qu'en punchline, c'est moi le truc, tout le village, j'ai lâché le rap, non, c'est le rap ou l'HB. Fuck un coup d'une HB, des bras cassés, deux par deux bras de fer, handicapé, des sentiers. Tu dis je t'aime quand t'as 2 grammes 7. La mentale même quand je mange une cran. Pas la faim, je suis pas un rappeur lambda. Genre de la lampe d'Aladin. J'sais pas ce qu'ils font en tout cas moi. Putain de merde, j'fais du rap. Même si certains le voient d'un mauvais oeil comme Philly Wap. J'suis pas comme vous, j'voulais dire comme eux, hein. J'voulais dire qu'en fin de compte, moi j'ai trop de vécu pour écrire comme eux. À ceux qui m'appellent ici, j'voulais dire que la première fois où ma main a touché un mic, j'voulais rire de ça. We'll be right back.
Vous écoutez toujours Montaigne ou Was a Thug, émission culturelle de rap, littérature et révolution sur Radio Canu. Alors nous venons d'assister à un événement fondateur de cette année 2016. Voilà, elle sera marquée du sceau de la résurrection de Bertrand Fibien. Et donc Bertrand Fibien est désormais là. Je viens de remarquer que vos micros sont assortis à la couleur de vos pulls, les gars. C'est absolument magnifique. Hein.
Oh, magnifique.
C'est un truc de fou. On va faire une photo. Et donc les gars qui sont présents là à Radio Canu, ce sont Eugène Yonegro, Bertrand Fibien et ainsi que Albert Tabu, dont vous venez d'écouter la magnifique chronique médicale. Oui. Alors voilà, comme Bertrand Fibien a ressuscité, il va pouvoir aujourd'hui nous parler de ce poète obscur précédemment cité lors des chroniques, qui est Mallarmé, Stéphane de Mallarmé, de son prénom.
Pas de deux, je crois.
Stéphane Mallarmé.
Oui, alors mon projet étant donc de, en ce jour de résurrection, de donc ressusciter donc dans vos oreilles ce poète donc nous pas oublié parce que il est pas oublié mais mort en tout cas. Donc est Stéphane Mallarmé. Donc je compte vous faire ça en 10 leçons.
10 leçons de sagesse du docteur Bertrand Fibien. Voilà.
Qui lui est armé pour le faire.
Oui. Et non pas Mallarmé.
Et donc oui, alors je suis très armé, comme en témoigne donc la première leçon. Première leçon, donc le prénom de Stéphane Mallarmé, c'est Stéphane. Donc voilà.
Oh,
pour la première leçon.
Il nous fallait une érudition comme la vôtre.
Et attention, on est encore bien avec la deuxième leçon. Donc la deuxième leçon, son nom est Mallarmé.
Oh.
Donc voilà déjà deux leçons capitales, hein, Stéphane Mallarmé, il fallait savoir.
C'est sûr.
Donc on peut quand même passer à une troisième leçon qui serait un peu plus fournie, on va dire. Donc sur un peu, je vais vous retracer la vie de Mallarmé dans cette troisième leçon. Donc Stéphane Mallarmé est né en 1842 à Paris, le 18 mars précisément.
Oh, commune, tout ça.
Exact, le 18 mars, nous avons longuement épilogué sur le 18 mars lors de la dernière émission que vous pouvez réécouter.
Et donc... alors bon, dans sa vie, il a eu pas mal de décès. Enfin, pas lui, mais sa famille, quoi.
Ah bah, comme en 2016. Hein.
Sa mère, donc, meurt en 1847. Donc après, il est confié à ses grands-parents dès son plus jeune âge.
Et il a quel âge, lui, en
50 ans.
47, bah, il a 5 ans, oui. Mm-hmm. Ensuite, Maria, sa sœur, meurt en 1857.
Donc il a 15 ans.
Donc il a 15 ans, et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire ses premiers poèmes. Et son fils, ensuite, meurt en 1879. Donc là, il est un peu plus vieux, mais bon, en c'est son fils. Donc. Et donc voilà, donc c'est une vie pas très cool au niveau des décès, mais bon, c'est pas très important. Enfin, ensuite, il devient prof d'anglais, mais bon, c'est pas vraiment sa vocation. En fait, il fait professeur d'anglais surtout.
Mais de
pour,
qui est-ce la vocation?
Oui, très bonne question.
Oui, mais bon, lui, c'est surtout pour écrire, et puis il délaisse carrément sa profession, en fait. Hein. Il demande des congés tout le temps, il s'en fout carrément, c'est juste pour pouvoir écrire. Et du coup, bah, l'éducation nationale, il en veut pas trop, parce que bon, bah, il écrit, alors c'est pas grave. Il a quand même, donc, bon, oui, donc, niveau prof d'anglais, il est pas top, mais bon, dans sa carrière artistique, donc, enfin, il est très important, et dans le milieu artistique en général, il rencontre énormément de personnes non connues, d'artistes, de poètes, de peintres, etc. Et dès 1877, il organise des réunions hebdomadaires, voilà, merci. Chez lui, donc, tous les mardis, donc c'est les mardis mallarméens qui deviennent
mardi
très connus. mais bon, sa santé, quand même, tout au long de sa vie, restera fragile et il mourra en 1898 d'un spasme du larynx. Donc, bah, il s'étouffe, en fait.
Monsieur Tabu nous fera la prochaine fois une chronique sur le spasme du larynx pour que nous
juste après celle de la mycose vaginale.
Donc voilà, mais bon, vous, la vie, les dates, etc. Bon, c'est pas trop mon truc. Alors on va passer
au texte.
À son œuvre, donc à la quatrième leçon, la relation de Mallarmé au Parnasse. Donc on a déjà évoqué le Parnasse la semaine dernière.
Émission précédente, oui.
Qu'on a un peu bâclé le Parnasse, on va dire.
Ah oui, puisque notre propos était surtout le cercle jutique.
Voilà, donc on est allé un peu vite. Donc déjà, alors pourquoi ça s'appelle le Parnasse? Donc ça vient du premier recueil, donc le Parnasse contemporain. Et je me rappelle que la semaine dernière, Monsieur Tech m'avait demandé pourquoi le Parnasse contemporain. Est-ce que c'était parce qu'il y avait déjà d'autres Parnasse avant et puis j'avais un peu pas du tout répondu, je crois. Mm-hmm. Et donc en fait, oui, donc pourquoi le Parnasse contemporain ? Donc je peux vous le dire aujourd'hui, c'est parce que donc le Parnasse, ça fait référence à une colline en Grèce, là où, soi-disant, se réunissaient toutes les muses autour d'Apollon. Et donc ça en est venu à désigner les réunions des poètes en général. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Parnasse contemporain, en hommage à ces muses de l'Antiquité et.
D'accord, donc attendez, si j'ai bien compris, il y a un seul groupe qui s'appelle le Parnasse contemporain. Il n'y a pas le Parnasse qui serait un groupe au 19e siècle, puis après le Parnasse contemporain.
Non, parce que le Parnasse contemporain, c'est pas un groupe, mais c'est un recueil. Donc c'est le recueil, en fait, il y a en tout, donc il y en a trois Parnasse contemporains. Un en 1866, donc avec la création du Parnasse, donc le mouvement, l'école, c'est le Parnasse.
D'accord.
Et il y a eu trois œuvres qui s'appelaient le Parnasse contemporain, 1866, 1871 et 1876.
D'accord.
Voilà. Et donc, si on appelle ces auteurs les Parnassiens, c'est par rapport à ces ouvrages-là du Parnasse contemporain. Donc, bon, après, donc, on avait déjà évoqué un peu ce que c'était le Parnasse, donc pour revenir dessus, donc c'était, donc, on avait dit, l'art pour l'art, où ils faisaient vraiment un vrai culte du travail. Donc, pour eux, la poésie, c'était donc vraiment un art au sens fort de l'art, hein, un travail, donc avec le respect des formes, des rimes, etc.
Un artisanat, presque.
Oui, voilà, un artisanat. Si on veut, mais c'est vraiment un travail très dur. Donc pour eux, le beau devient presque une religion. Donc leur idéal, c'est vraiment la forme irréprochable du beau. Et donc c'est une poésie, donc finalement très très sérieuse par rapport aux utiques justement. Et donc destinée également à un public très cultivé. Donc c'est vraiment le beau dans sa forme la plus travaillée. Et le comte de Lille, donc Parnassien. Très célèbre, donc, écrira, lui, « L'art, dont la poésie est l'expression éclatante, intense et complète, est un luxe intellectuel accessible à de très rares esprits. » Donc c'est vraiment le Parnassien écrivait donc, pour une élite, et c'était pas compréhensible pour tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment absolument vrai pour Mallarmé, qui lui, donc, écrivait.
Donc c'est ça, le rapport entre Mallarmé et le Parnasse, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il dit.
Oui, et puis l'art, pour lui, c'était exactement ça, hein, l'art diminué de tout. De lyrisme aussi, faut pas croire, parce que généralement on dit l'art romantique, machin. Et t'as pas de lyrisme du tout dans le Parnasse et pas trop chez Mallarmé, donc c'était vraiment une poésie impassible.
C'est-à-dire qu'on.
Une recherche formelle et pas d'émotion, pas de.
Et sectaire.
Sectaire.
Élitiste.
Oui, aussi, ils cherchent surtout un public cultivé, quoi. De très rares esprits peuvent accéder à ce qu'ils font.
Mais il n'y a pas de lyrisme, ça veut dire il parle pas d'eux, il n'y a pas peu de poèmes poèmes à la première personne.
Enfin, si, il peut y en avoir, mais c'est beaucoup moins en tout cas que
les romantiques. D'accord.
Donc voilà pour ce qui est mais bon, bien sûr, s'il y a un lien avec le Parnasse, quand même, Mallarmé se détache du Parnasse. Et d'ailleurs, on peut noter quand même que tous les grands poètes qui se sont détachés, qui ont appartenu au Parnasse, ont fini par s'en détacher. Sinon, tous ceux qui sont restés parnassiens jusqu'au bout sont un peu sombrés dans l'oubli. Hein. Donc voilà, le Parnasse, c'est donc de 66 à 76, et après ça s'éteint, et donc les poètes après se renouvellent et puis perdurent par eux-mêmes. Donc on va parler donc maintenant d'un autre stade de la vie poétique de Mallarmé. Donc avec cette cinquième leçon, donc il y a obligément une révélation de Mallarmé, alors que celui-ci avait donc en tête Hegel, donc apparemment Hegel a une assez grande importance dans son œuvre, et donc alors qu'il avait en tête Hegel et qu'il essayait de creuser son vers, toujours plus creuser son vers, il a fait une rencontre avec le néant. Donc en creusant son vers, il est arrivé au néant, et avec la philosophie d'Hegel, donc apparemment un rapport avec le néant, peut-être que nos philosophes pourront nous éclairer là-dessus.
Et c'est exactement comme dans le film de Clapiche, la saga là, avec l'auberge espagnole et tout. Dans le troisième, là, le casse-tête chinois, je crois. Ouais. Mmh. À un moment, il y a Hegel qui frappe à sa porte et qui lui explique le néant et tout.
Ah oui, c'est vrai.
C'est exactement ça.
Hegel, si je ne m'abuse, c'est surtout une néantisation d'une contradiction dans l'histoire qui s'opère. C'est pas un néant absolu, c'est toujours le néant de quelque chose, je crois. C'est dans le mouvement dialectique de la pensée, il se passe un moment dans l'histoire qui doit être contredit, donc néantisé dans son acte. Mais bon, je suis pas sûr du tout, mais je crois pas que ce soit à prendre dans le sens de néant absolu.
Non, mais apparemment, la question se pose de savoir est-ce que Mallarmé avait vraiment lu Hegel ou est-ce que c'était des...
Il a fait semblant.
En tout cas, pour lui, Hegel est cette façon de creuser toujours son verre pour essayer de trouver quelque chose. Et donc, en fait, il est confronté à l'échec de sa, de sa poésie. En fait, donc, mais il en sort finalement que plus fort parce que ce néant devient une base, en fait, de son écriture. Et à partir du néant, il cherchera donc un départ dans le beau, l'idéal, à partir de ce néant. Donc, on aura une nouvelle phase de son écriture beaucoup plus hermétique, mais qui suivra quand même une grande phase de dépression avec cette rencontre avec le néant. Pendant des années, il errera un peu, il n'arrivera plus à écrire. Et finalement, il fera beaucoup de recherches, il entreprendra une thèse sur l'écriture indo-européenne pour essayer de combler ce néant qu'il trouve dans le langage.
Ouais, il est torturé, quoi.
Oui, il est carrément perdu. Hein. Donc, on arrive finalement à une écriture donc, très hermétique, très autoréférentielle, donc une poésie que tous ont un peu du mal à comprendre, et qui est due justement à cette rencontre avec le néant.
Oui, d'ailleurs, chers auditeurs, je suis vraiment navré de cette transition tout à fait triviale entre littérature, voilà, la très grande poésie de Mallarmé et la politique française actuelle, puisque je voudrais
mais quand vous allez
proposer...
élever au stade d'art.
Oui, je vais tâcher autant que faire se peut, mais c'est pas tout à fait évident. Mais voilà, je voulais vous proposer un petit flash info sur le néant, le vide, la désubstantialisation des débats politiques à partir d'une question en rapport avec une thématique de l'émission, puisque je voudrais me demander avec vous aujourd'hui si Christiane Taubira est une thug.
Bien sûr.
Voilà. Alors, bon, on sait que l'actuel ministre de la Justice passe parfois pour un gangster en s'attirant régulièrement les foudres de son propre camp, mais... C'est la question que je voudrais poser aujourd'hui. Est-elle un authentique voyou qui irait tant que ça à l'encontre de l'ordre moral imposé par son camp, c'est-à-dire celui de la droite complexée, comme je l'appelle en reprenant le mot du très pertinent de l'économiste et philosophe Frédéric Lordon. Alors, Christiane Taubira a indéniablement, je crois, pu faire preuve de thuguitude assez tôt dans sa carrière politique, puisque dès 2004 et 2005, elle s'est respectivement opposée à la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques et au projet de constitution européenne. Donc, c'était avant qu'elle soit ministre. Mais même arrivée au gouvernement en 2012, elle a aussi participé à des battles un petit peu audacieux avec l'aura d'un Eminem, on pourrait dire, en portant la réforme du mariage homosexuel et en se démarquant un petit peu lors de ces débats par son habileté et son éloquence. Et c'est surtout à la même époque qu'elle exprimait des oppositions déjà tranchées avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Manuel Valls, quant à son projet de réforme pénale qu'elle menait aussi. Et c'est aussi à la même époque qu'elle subissait fièrement les outrances racistes et sexistes de la droite décomplexée cette fois-ci. Et donc, s'opposer explicitement à Valls et rester de marbre devant la très fine couverture du magazine Minute, magazine d'extrême droite, en opposant donc l'intelligence et Bob Marley à l'ignorance facho, cela la rendait tout de suite extrêmement sympathique et pouvait la faire passer pour un thug au sens d'un rappeur de la street qui, à défaut de ses couilles, porterait son courage devant des concurrents hostiles et des idées plus que pestilentielles. Mais donc surtout, Christiane Taubira a fait preuve récemment d'une apparente très grande thuguitude quand, donc très récemment, en décembre 2015, elle a annoncé sur une radio algérienne que le gouvernement français renonçait à l'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme pour le projet de réforme constitutionnelle du gouvernement, alors même que le Conseil des ministres du lendemain a annoncé le contraire. On peut dire que d'une certaine façon, vu qu'elle n'a pas démenti, elle a bien été obligée de reconnaître que le gouvernement n'allait pas, enfin au moins implicitement, n'allait pas renoncer à cette réforme, mais en disant cela, elle a quand même montré son opposition et donc, une fois de plus, fait preuve d'une certaine thuguitude en opposant l'intelligence à la saloperie électoraliste de fils de chien qui nous gouverne, jouant sur la peur des gens et voulant opposer deux catégories de population pour rappeler l'électorat Front National.
Thug.
Oui, un petit peu quand même, je pense qu'on peut le dire. Mais donc, à ce titre, beaucoup, comme la très respectable Radio Europe 1, c'est de l'ironie bien sûr, la qualifie d'épine dans le pied de François Hollande ou de son souci numéro 1. Hollande qui, a priori, ne souhaite pas s'en débarrasser, justement. Elle qui sert parfois d'alibi de gauche dans ce gouvernement de gougnafier en acte, désormais aussi nationaliste qu'ultra-libéraux. Oui, donc voilà, une certaine teuguitude de Christiane Taubira, mais si je pose la question, c'est parce qu'on peut aussi très bien se demander pourquoi donc ne claque-t-elle pas la porte et n'envoie pas chier toutes ces petites enflures.
C'est vrai ça.
En fait, la question que je voudrais poser, c'est n'y a-t-il pas une once de masochisme dans cette volonté de persévérer au sein d'un camp qui n'est pas vraiment le sien, surtout vu qu'elle est censée défendre le projet de réforme constitutionnelle aux côtés de ce cher Manuel Valls. Et en fait, si je pose la question, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait donner une toute autre acception au mot « thug ». Parce que figurez-vous que si vous consultez le Wiktionnaire, cet outil parfois très utile, on peut trouver cette définition-là de « thug ». Un thug, historiquement, c'est un membre d'une secte indienne qui pratiquait la strangulation rituelle.
J'ignorais cette exception.
Oui, je l'ignorais aussi, mais à ce moment-là, on pourrait dire que Christiane Taubira est un thug, surtout au sens où elle pratique une forme de strangulation rituelle en se démarquant de ce camp tout en y restant, et bon, voilà. Et surtout, enfin voilà, c'est apparemment bien ce qui se passe, mais surtout, et c'est là que je voulais en venir, on pourrait aussi poser une hypothèse un petit peu plus grave, c'est que finalement, ce camp qui n'a pas l'air d'être tout à fait le sien est en réalité véritablement le sien, malgré les apparences. Et je vais m'expliquer en mobilisant en fait les récents événements.
Elle jouerait un double jeu.
Oui, voilà. En fait, elle servirait d'alibi de gauche, tout en fait en servant son gouvernement, quoi. Alors, mais j'en veux pour exemple les récents événements qui ont secoué des mois. Notre classe politique sur les salariés de l'usine Goodyear d'Amiens, puisque il faut savoir que dans la mesure où l'entreprise et les deux cadres concernés par la séquestration avaient retiré leur plainte, c'est en fait le subordonné direct de Christiane Taubira, c'est-à-dire le procureur de la République, qui a ordonné qui a condamné les 8 salariés de l'usine Goodyear à 24 mois de prison, dont 9 fermes, comme on sait, sans qu'elle n'y trouve rien à redire. Et on peut d'ailleurs, et je crois, être sûr que ce procureur de la République ne peut agir sans consigne. Et donc, Christiane Taubira serait, d'une certaine manière, directement à l'origine de cette condamnation tout à fait outrancière. Et voilà, je finis là-dessus pour demander si Christiane Taubira est-elle, comme il a pu dans un premier temps paraître, une thug au sens où elle voilà serait un gangster, un voyou au sein de son propre camp, ou bien un thug au sens d'un membre d'une secte indienne qui pratiquerait la strangulation rituelle. Je vous laisse avec ça, chers auditeurs, et nous revenons à Mallarmé qui est quand même pour des considérations un peu plus hautes. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Oui, je pense que Mallarmé aurait eu beaucoup à dire hein, sur ça. Il aurait sans doute, il aurait sans doute quitté lui la France comme il l'a fait à l'époque pour se retrouver dans le néant, la marche et l'écriture. Hein. Je pense que ça l'aurait inspiré dans le sens d'une dépression encore plus profonde, soutenue et prolifique, n'est-ce pas, Bertrand Fibien ?
Oui, ben alors justement en parlant de choses un peu plus réelles, on va prendre sur les difficultés de lecture qu'on peut avoir en lisant Mallarmé, hein, parce que bon,
tout comme en lisant la trajectoire politique de Christiane Taubira qu'on ne comprend pas.
On est dans l'indécision. Ah,
voilà. Il faut souligner le parallèle pertinent entre Taubira et Mallarmé.
Et sauf que cette difficulté de lecture est vraiment voulue par Mallarmé, qui lui veut en un sens éduquer son lecteur en fait. Il veut l'éduquer à lire autrement que comme il a appris à lire uniquement dans le journal. Donc pour lui, la lecture doit être active de la part du lecteur et ça doit pas être facile. Ainsi, il faut que le lecteur s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Sinon, c'est le but.
Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc c'est vraiment une écriture à déchiffrer. Et en ce sens, il n'y a pas que sa poésie qui est une écriture à déchiffrer, mais aussi tous ses discours rhétoriques ou ses écrits de préface. En effet, donc ils sont tous deux, donc les préfaces, on a par exemple la préface de Vatek, ou des discours rhétoriques qui s'appellent les lettres et la musique, je crois, quelque chose comme ça, mais qui sont tout aussi inintelligibles en fait que ces poèmes. Donc certains parlent de tous ces écrits-là comme des poèmes critiques, où en fait on dirait que Mallarmé ne peut pas s'empêcher, quoi qu'il écrive, d'être hermétique, de faire de la poésie, de rendre un peu tout incompréhensible pour les lecteurs, pour que ceux-ci donc vraiment apprennent à lire autrement et à avoir une lecture active. Donc on pourrait lancer l'idée qu'il voudrait donc dépasser toutes les formes classiques du discours au profit donc de la littérature, mais qui pour lui donc la littérature n'étant que vraiment la poésie, et donc ramener tout discours vers la poésie pour ainsi peut-être faire face à ce néant qu'il rencontre dans le langage.
Oui, voilà. Excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il met d'une certaine manière le néant en scène, enfin qu'il rend le néant par son écriture, quoi.
Bah si, mais d'ailleurs, on va passer peut-être à.
Ah pardon, excusez-moi.
Si
votre esprit est trop vif, Monsieur Ionesco.
Oui, justement, on peut voir que des fois, il essaye de mettre donc le néant en poème, on va dire. Donc par une écriture qui nous apparaît assez hermétique, donc là je vais vous lire un de ses poèmes les plus célèbres, on va dire le sonnet en X ou sonnet allégorique de lui-même, comme il a pu être appelé. Ses purs angles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse se minimise, soutient l'ampadophore. Main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire en fort. Sur les crédences au salon vide, nul optix, aboli bibelot d'inanité sonore. Car le maître est allé puiser des pleurs au Styx, avec ce seul objet dont le néant sonore. Mes proches la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une anix. Elle défunte, nue en le miroir, encore que dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe des scintillations, sitôt le septuor.
Magnifiquement lu et magnifiquement hermétique que ce poème.
Voilà, où on entend donc le maître est allé puiser des pleurs au Styx avec le seul objet dont le néant sonore. Donc on voit ici donc quand même la présence du néant et donc de ce salon vide, etc. Donc voilà, il y a un vide dans tout le poème. Mais est-ce que c'est un vide de sens également? Ça, c'est ce qui nous reste.
Il faut peut-être dire aux auditeurs que là, ils assistent à quelque chose d'absolument, voilà, d'absolument magnifique. L'analyse du poème le plus incompréhensible de toute la littérature française, hein. C'est ça qu'il est en train de faire, Monsieur Fibia. C'est pas rien. Il a pas ressuscité pour venir faire de la merde et baver dans un micro, hein.
Quel grand homme.
Oui, enfin, sauf que bon, pour l'instant, l'analyse, on va la laisser de côté. Pour essayer de ce poème, hein, parce que est-ce que chercher forcément un sens à trop analyser, peut-être, cela tuerait la poésie, mais quand même, je vais essayer de vous donner des clés.
Exact.
Pour essayer de comprendre, notamment, la syntaxe de Mallarmé, qui est une syntaxe toute particulière. Et donc, pour cela, donc, je ne vais pas utiliser ce poème-là, mais un autre poème. Comme ça, vous aurez dans l'oreille un autre poème encore de Mallarmé. Plus long, celui-là. Pas forcément très compréhensible, mais on va essayer de voir déjà que si on observe la syntaxe un peu plus d'un peu plus près, on peut essayer de comprendre un peu mieux les choses. Donc on arrive ici, donc ça c'est la septième leçon, donc qui donc concerne la lecture du poème Là de la mer repos. Là de la mer repos où ma paresse offense une gloire pour qui jadis j'ai fui l'enfance adorable des bois de roses sous l'azur naturel. Et plus là cette fois encore du pacte dur de creuser par veillée une fosse nouvelle dans le terrain avare et froid de ma cervelle. Fossoyeur sans pitié pour la stérilité, que dire à cette aurore, au rêve visité par les roses quand, peur de ces roses livides, le vaste cimetière unira les trous vides. Je veux délaisser l'arvorace d'un pays cruel. Et, souriant aux reproches vieillis que me font mes amis, le passé, le génie, et ma lampe qui sait pourtant mon agonie, imiter le chinois au cœur limpide et fin, de qui l'extase pure est de perdre la fin, et de peindre la fin, sur ces tasses de neige à la lune ravie d'une bizarre fleur qui parfume sa vie, transparente, la fleur qu'il a sentie enfant, au filigrane bleu de l'âme se greffant. Et la mort, telle avec le seul rêve du sage serein, je vais choisir un jeune paysage que je peindrai encore sur les tasses distraits. Une ligne d'azur mince et pâle serait un lac parmi le ciel de porcelaine nue. Un clair croissant perdu par une blanche nue trempe sa corne calme en la glace des eaux, non loin de trois grands cils d'émeraude roseaux. Donc on est peut-être un jour encore toujours dans l'incompréhension.
Mais c'est très beau.
De la part des auditeurs, oui, mais après, Mallarmé reste beau, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, en fait. Oui. Mais bon, on va quand même essayer de comprendre quelque chose.
Ça me fait plaisir, moi.
De cette syntaxe. Donc, la syntaxe de Mallarmé est tout d'abord donc, une syntaxe qu'on peut qualifier d'éclatée. Donc, pour ceux qui seraient perdus, on en est à la huitième leçon, là. Parce que j'avais dit dix leçons, donc là, c'est la huitième.
Il y a une accélération quand même au niveau des leçons. Moi, je me souviens des deux premières et après.
Vous n'avez pas bien écouté, c'est pour ça. La syntaxe donc de Mallarmé est une syntaxe éclatée, donc qui ne fonctionne pas donc par succession comme la syntaxe normale d'une phrase, mais bien par superposition. Donc, en fait, donc, normalement, dans une phrase normale, donc, le chat mange des souris. Donc, on a les choses qui vont... Le sens va petit à petit. Alors que, donc, chez les Mallarmés, donc, on a par superposition, et donc, l'esprit demeure en suspens et attend la fin de la phrase pour pouvoir comprendre, en fait. Donc, il fait marche... il y a un processus d'enveloppement de la phrase qui se fait. Et donc, il disjoint donc, des éléments premiers, il intercale d'autres éléments pour... ensuite, attendre jusqu'à ce que le système soit complètement clos à la fin de la phrase. Donc, il retarde vraiment la perception du sens pour une perception donc beaucoup plus poétique que logique, finalement. Mmh. Et donc, on voit ça dans la disjonction de la phrase. Donc, il ronde, par exemple, les associations ordinaires de l'écriture. Donc, on a, par exemple, dans « La de la mère repos », à peu près au milieu... Donc je vous relis un passage. Je veux délaisser l'arvorace d'un pays cruel et, souriant aux reproches vieillis que me font mes amis, le passé, le génie et ma lampe qui sait surtout mon agonie, imiter le chinois. Ce imiter le chinois, là, il faut le rapprocher de.
Mandon.
Du verbe. En fait, il dépend du verbe je veux. Donc il est coordonné au verbe délaisser par la conjonction et. Donc je veux délaisser l'arvorace d'un pays cruel et. Blablabla, imiter le chinois. Donc il veut délaisser l'art, vorace d'un pays cruel, et imiter le chinois.
Imiter le chinois, ça veut dire et faire en sorte qu'on ne comprenne rien.
Non, il veut délaisser l'art vorace d'un pays cruel et imiter le chinois. Donc il veut délaisser l'art de son pays pour imiter l'art chinois, en fait. Parce que dans ce poème, il y a un changement d'esthétique où il dit qu'il veut finalement écrire comme peindrait un chinois, finalement. Donc tout dans l'épuration, dans le blanc et quelques juste petites lignes, mais je reviendrai peut-être après.
Si je peux me permettre, ce que vous dites sur la peinture, ça me fait un peu penser qu'on est quand même effectivement dans le siècle de l'abstraction en peinture aussi. Ce que vous dites sur l'épuration et tout, ça me fait un peu penser qu'en peinture à la même époque, on avait Malevitch, Kandinsky et tout ça, un art abstrait qui voulait essayer de donner du sens et qui, tout en épurant et en ne tendant pas la perche au spectateur d'une certaine façon. Donc c'est le parallèle est assez intéressant, c'est un peu le siècle de l'interprétation, et d'ailleurs Nietzsche disait à ce propos que notre monde était redevenu infini, parce que comme il disait, il n'y a plus de faits, il n'y a que des interprétations, et ça se ressent dans tous les arts finalement, autant dans la peinture que dans la littérature. Enfin, c'est une...
Oui, alors après, on ne va pas jusqu'à l'abstraction, parce que... Donc,
non. Mais l'épuration.
Donc là, oui, l'épuration. Donc le blanc, très important, où il n'y a rien et juste quelques petits traits fins derrière. Mais je reviens donc sur ma syntaxe. Je veux délaisser. Donc le verbe délaisser, enfin l'infinitif délaisser, l'infinitif imiter, qui sont normalement coordonnés donc par le et. On a intercalation donc d'une proposition donc caractérisante et explicative. Donc, qui est composé d'un participe présent, qui est suivi d'un groupe nominal prépositionnel, qui lui-même est déterminé par une relative qui comporte elle-même quatre sujets, dont le dernier sujet est également amplifié par une relative. Donc, on voit qu'entre ces deux infinitifs coordonnés, on a toute une succession de formules qui vient vraiment rompre la syntaxe et disjoindre tous les éléments. Et donc, on a pareillement donc un vrai bouleversement de l'ordre des mots, donc qui rend aussi un peu la chose incompréhensible. Donc, on retrouve donc toujours dans ce poème que dire à cette aurore, au rêve visité par les roses, quand en peur de ces roses vides, le vaste cimetière unirait les trous vides. Donc ici, visité par les roses et peur de ces roses. Ils renvoient tous les deux au vaste cimetière. C'est le vaste cimetière qui est visité par les roses et qui a peur de ces roses. Donc bon, ça se voit pas à l'oral, mais la terminaison nous indique que c'est vraiment le vaste cimetière qui est concerné. Donc ici, le participe passé qui renvoie au vaste cimetière se trouve avant, donc les roses sont rejetées avant. Et donc du coup, pour comprendre, il faut vraiment lire les strophes en entier. Entière pour pouvoir comprendre quelque chose. Donc il faut vraiment faire la lecture de Mallarmé passe vraiment par une étude de la syntaxe très poussée pour pouvoir comprendre, remettre tout en ordre pour essayer de voir un peu. Donc il faut pas essayer de déchiffrer, de venir avec tous ces trucs pour essayer de remettre en ordre le poème pour le reconstruire, parce que c'est pas le but, mais c'est juste pour remettre qu'il vive, nous faire voir une syntaxe donc plus poétique que logique. Et donc c'est à ça que sert ce rejet de la syntaxe. Mais donc il faut pas s'arrêter devant cette incompréhension apparente et attendre donc que le poème se se closent pour pouvoir atteindre donc un sens plus complet. De ce fait, donc, vu que la syntaxe n'est pas respectée, on a vraiment une condensation du sens en fait, qui se forme à partir des mots.
Deuxième leçon.
Et voilà, donc là, encore une autre.
Merci pour le rappel.
Leçon, neuvième leçon, je crois. Nous y sommes presque. Et donc, dans cette condensation du sens et des rapports logiques, donc, notamment à la fin de ce poème-là, on a non loin de trois grands cils d'émeraude, roseaux. Donc là, les grands cils d'émeraude sont comparés à des roseaux. Mais sans mot de comparaison, en fait, juste une virgule. Donc le rapport logique entre les deux nous est laissé entendre directement par la poésie qui nous le fait comprendre. Et on a également, donc, des fois, certains mots, ils donnent une acception un peu particulière. Donc par exemple, dans le poème de tout à l'heure, le sonnet en X, il y avait des licornes ruant du feu. Donc ici, le verbe normalement ruer, normalement intransitif, devient transitif. Et donc, c'est un complément. La licorne ne fait pas que ruer, mais elle rue du feu. Donc, il ajoute un autre sens au mot qui pourrait avoir, et même dans les sonorités, donc dans le la de la mer repos toujours. Et la mort, telle, le seul rêve du sage. Ici, la mort telle, donc la paronomase, la mort, plus loin, T-E-2-L-E, nous fait aussi entendre le son mortel, donc l'adjectif mortel. Donc il y a tout un jeu, donc sur toute, donc une polysémie vraiment importante des mots. Donc chaque mot doit vraiment être lu dans son sens plein, et donc essayer de voir tout ce qui se cache derrière le moindre mot, plutôt que d'essayer de voir une linéarité syntaxique, plutôt voir les mots comme ils sont en propre.
C'est très fort parce qu'on avait l'impression par moment que c'est un imaginaire ou un esprit en acte qui pense, comme s'il y avait des images qui se superposaient, des idées qui viennent. C'est ça que ça m'évoquait quand il n'y avait pas de mots de comparaison, comme quand on pense, on va pas forcément faire constituer des phrases dans notre tête, mais en même temps, c'est les mots sont quand même très travaillés et agencés en eux. Donc il y a un peu les deux dimensions. Quoi.
Oui, voilà, parce qu'il y a la dimension du travail, donc qu'on voyait chez les Parisiens, est très présente chez Mallarmé. Hein. Mais il y a aussi cette pensée du surgissement, donc qui est très présente dans la peinture chinoise, en fait, où on est en accord avec lui. Donc dans la pensée chinoise, il y avait par exemple sur le roseau, où certains peintres donc disent je ne représente pas un roseau, mais le roseau a poussé dans mon esprit et après je le retransmets. Donc il y a bien cette idée aussi des choses qui naissent dans ça. Je sais pas, donc si vous connaissez l'absente de tout bouquet, donc de Mallarmé, donc qui dit que sur le papier, donc je n'ai pas la citation exacte, mais il fait naître l'absente de tout bouquet, donc l'absente de tout bouquet, donc qui n'existe pas en vrai, mais qui naît dans son esprit, donc par la poésie, donc il fait ressortir du néant.
Toujours ce néant primordial, hein, c'est ça.
Ben oui, ben, c'est ce qui.
Est-ce qu'il faut être fou pour être Mallarmé?
Ah ben ça. peut-être faut-il être fou pour être un génie.
Là, il n'est pas totalement fou parce que
non,
il arriverait, comment dire, là c'est plutôt, on a presque l'impression d'un génie nietzschéen qui est quand même un grand artisan en même temps que quelqu'un d'inspiré, frappé par l'inspiration, quoi.
Oui.
On a un petit peu les deux dimensions. Sur le surgissement de l'absence, c'est vraiment très fort parce que finalement l'imagination, c'est un peu ça, c'est toujours rappeler un objet qui n'est pas présent directement. Dans son esprit.
Oui,
du coup, c'est vraiment faire surgir une absence.
Donc on n'est plus du tout dans le rapport mimétique que l'on peut voir.
Oui, voilà, ouais. C'est pas de l'imitation de quelque chose qui est vu.
Ce vrai beurre. Pas exactement le genre idéal, on m'appelle Luc Breton, nouveau genre cinéaste. Yo, les gens disent que Candine est Hall, il attendrit les femmes avec le genre des anges identiques aux bandits qui brandit les armes. Paraît aussi qu'il enquille des quantités quand il béda avec des grandes idées semblent germées de sa glande pinéale. Les autres qu'on a rendu mes phases, vu que j'ai pas de doctorat, mais j'remplis déjà des amphithéâtres. J'suis connecté sur la Riviera, si t'as besoin de plans qui dépannent, j'ai des gaves à anti-bécane qui livrent Marseille, Toulon, anti-bécane. Plavons dans le showbiz et dans l'illégal. J'aime les gens qui portent leurs couilles, pas les gens qui les cassent. Dis-moi à quoi t'ont servi tes années de fac, si t'as perdu tes facultés lorsqu'il fallait se battre, hein. J'les laisse clouer dans les salles de spectacle, il les fait chier genre la chiasse quand y'a pas de spectacle. Toutes ces salopes sues, j'suis comme le toit d'un vieux bâtiment, j'peux leur tomber dessus à tout moment. Personne ne peut dire que je ne suis pas au-dessus. Après le rap, je m'attaque aux salles obscures. Zéro intermédiaire, seuls mes frères gèrent mes dièses. Le textile et la réal, je mêle le mercantile et l'agréable. Comme lunatique à l'époque, je suis paré pour tout. Je délivre la BO de nos vies préparée, paré pour nous. Je lis pas pas de marivaux, il m'arrive à la cheville. Que mes idoles soient mes rivaux, ouais, c'est ça ma cible. Son à la Anakin, je traîne avec des raps à sec. Qui t'assassinerait pour pas le dixième de ta SACEM. On soigne avec des cataplasmes, on s'attaque à ta place assise. On se déplace à 10 comme les gars de la Savine. Ils m'ont pris en grippe, savent pas que je suis plus vicieux que le cancer. Pour plus qu'ils ferment l'œil, je vais leur circoncire les paupières. Je viens des zones côtières, faites attention à chaque chanson. Mon ascension, j'en suis plutôt fier, mais j'en suis côtière. Malin et vicieux comme le plus petit des Dalton. Plus de phases en inverse qu'ils n'en ont dans leurs albums. Burr Beagle. La gamme. La.
Voilà, et donc bon, alors maintenant que je vous ai peut-être, enfin que j'ai essayé de vous donner certaines clés, donc syntaxiques, etc., pour donc comprendre un peu la poésie de Mallarmé, donc je vais vous proposer un petit exercice du coup. Oui.
Oula.
Ben je vais. Non, je
vous avez juste, ressuscité pour ça.
Je vais juste le début d'un poème, parce qu'il est un peu long. Et donc, ben, pour voir si vous avez réussi à comprendre.
Ah là là, le gars il ressuscite et il nous fout des interros comme ça.
Je préférais quand il était mort.
Ben, au moins, vous aurez l'occasion d'entendre encore un poème très.
Juste avant, je peux vous poser une question qui pourrait vous intéresser. Vous avez parlé du blanc chez Mallarmé tout à l'heure, mais est-ce que le vert est présent? Parce que je sais que vous aimez beaucoup le vert, et en plus ça pourrait expliquer pourquoi les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois. J'étais en train de me dire.
Hey, Stéphane, oula, Stéphane hey. Mallarmé, ça réfléchit.
Et là on revient à la première leçon. Hein.
Déjà on l'a dans le dernier poème ici, là, donc les trois grands cils d'émeraude, l'émeraude c'est vert.
Donc il est probable que Mallarmé, voilà,
là, je pense qu'on a la clé.
Certain, voilà, je pense.
Ça commence par la lassitude et ça finit par le roseau, donc il y a vraiment un mouvement, donc on part de la lassitude de ce qu'on aime pas pour aller au vert, et donc il y a le vert de l'espoir. Et donc,
oui, il faut
parce
pas
qu'en plus ce poème figure aussi un abandon une sorte d'abandon de la mélancolie pour une poésie du vide, et donc d'une esthétique chinoise qui permet donc de faire face à cette mélancolie et de la surpasser en fait.
Ah oui.
Donc on a bien donc le vers final de l'espoir qui arrive.
D'accord.
Oui, il faut pas oublier que Mallarmé en tant que poète faisait des vers, et donc forcément il aimait peut-être un peu le vers.
Ouais, exactement. Hein. Et puis le néant dont il parle, ça pourrait être le néant de l'esprit des supporters de Saint-Étienne aussi.
Aussi.
On pourrait vraiment creuser très loin. Dont on déplore leur victoire d'ailleurs hier contre l'Olympique Lyonnais. Hey. Arraché. Et... Bon, enfin bon.
Oui, donc. Alors bon, voilà, vous allez me dire si.
Ah, c'est, c'est, pas.
Le jeu, le fameux jeu.
La poésie mallarmienne vous paraît-elle toujours aussi hermétique ou pas? Donc, voilà. Donc c'est un poème qui s'appelle « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Un coup de dé jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchit, étale, furieux sous une inclinaison, plane désespérément d'elle, la sienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements. Coupant au ras les bons traits à l'intérieur, résume l'ombre enfouie dans la profondeur, par cette voile alternative jusqu'à adopter l'envergure. Sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment, penchée de l'un ou l'autre bord. Le maître, hors d'ancien calcul, où la manœuvre avec l'âge oublié, surgit, inférant, jadis il empoignait la barre de cette conflagration, à ses pieds de l'horizon unanime qui se prépare, s'agite et mêle au point qu'il étreindrait, comme on menace, un destin élevant l'unique nombre qui ne peut pas être un autre esprit pour la jeter dans la tempête, en reployer la division et passe fière, hésite, cadavre par le bras, plutôt écarté du secret qu'il détient que de jouer en maniaque chenu. La partie envahit la clé au nom des flots, coule en barbare soumise, indirecte de l'homme. Naufrage cela, sans nef, n'importe où veine, ancestralement à n'ouvrir pas la main crispée, par-delà l'inutile tête, l'ex dans la disparition, à quelqu'un ambigu, l'ultérieur démon immémorial, ayant des contrées nulles, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité. Celui, son puéril, caressé et poli, et rendu et lavé, assoupli par la vague, et soustraite au dur roseau, perdu entre les airs, né d'un ébat, la mère par l'aïeul tentant, ou l'aïeul contre la mère, une chance oiseuse. Fiançailles, dont la voix d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste chancellera, s'affalera, folie n'abolira.
Wow. Donc là, on est censé faire quoi maintenant avec ça?
Personnellement, j'ai lâché au deuxième maire. Donc.
Oui, donc. Peut-être notre seul espoir.
Je vais prendre des notes, donc je pense que c'est ça qui va prendre la parole.
J'ai juste pris comme note aïeul slash maire. Non, parce que je pense qu'il faut se référer au titre, avant tout, pour essayer de comprendre. Un coup de dé, j'aime en abolira le hasard. J'ai l'impression que le poème parle de ce que peut éventuellement le capitaine d'un bateau contre des flots qui pourraient se déchaîner ou sont déjà déchaînés, ça j'ai pas vraiment compris.
Alors oui, il y a une tempête.
Il y a une tempête,
un naufrage qui revient. Mais pour vous rassurer, personne n'a jamais rien compris à ce poème en fait.
Même pas Maurice Blanchot.
Il y a plein de thèses différentes, tout le monde y met un peu du sien pour essayer de comprendre, mais donc déjà il faut que je vous explique, parce que j'ai un peu triché. C'est un poème pas vraiment donc comme les autres. Étant donné qu'il est sur une page, les mots sont parfois en majuscule, parfois en minuscule, d'autres sont en petits caractères, d'autres en gros caractères. Il y a des blancs partout dans la page. Des fois, il y a un seul mot sur la page et après. Donc déjà, à lire, c'est un peu compliqué. Il faut savoir où aller, dans quel sens aller. C'est un
nouveau. Un labyrinthe.
C'est très particulier, en fait. Et donc le sens échappe toujours, c'est un peu un mystère ce texte. Donc il y a certains ouvrages où certaines personnes proposent des...
Mais c'est vraiment étonnant parce qu'on dirait qu'il y a la place possible pour une interprétation, parce que les mots, entre eux, même si c'est un peu mystérieux, on dirait que ça fait sens, quoi. Mais on n'arrive pas à donner un sens global.
On n'arrive pas, et puis là j'ai que le début, en plus il y a la fin. Sauf que il y a toujours la mer qui revient, on sait qu'il y a des flots, etc. Mais après, on essaye toujours, mais peut-être que justement, il faudrait que ça reste un mystère et pas essayer de trop interpréter. Avec Mallarmé, de toute façon, on se cassera forcément là-dedans, je pense. Si on essaye de trop interpréter, on ira un peu trop loin, donc il faut rester.
Donc, même vous, érudit Bertrand Fibien, n'avez pas une explication, une interprétation.
Je pense qu'il faut rester humble face au génie.
Mais j'étais en train de me dire que peut-être Albert Tabu aurait pu interpréter ça en un sens machiavélien, en opposant la Fortuna et la Virtu, puisque. Imaginons un chef politique qui fasse preuve de virtu, aussi vertueux et talentueux sera-t-il, il n'abolira jamais la fortuna, donc le hasard, quelles que soient les actions qu'il entreprenne.
On pourrait dire que c'est pareil
avec l'aïeul, autant l'aïeul, donc le capitaine du navire, on pourrait dire ça comme ça, même s'il fait preuve de beaucoup de talent et qu'il est prêt comme ça à se libérer avec des pirouettes, il abolira jamais le hasard qui fait que si ça se trouve, il y aura une vague qui lui tombera sur la gueule. Peut-être que c'est.
Et peut-être que c'est d'ailleurs le cas de Christiane Taubira. Qui n'est pas à la ouïe d'une vague qui l'éjectera du gouvernement, quoi.
Et ouais, c'est vrai.
Et c'est magnifique tout ça, tout se tient.
Ouais,
tout
oui,
se
oui, tient. Et puis sur un bateau en bois du Rhum, donc ça nous ramène à la cirrhose.
Et puis l'Olympique Lyonnais n'est pas à l'abri d'une défaite face à une équipe aussi aléatoire que l'AS Saint-Etienne.
Nous allons donc clore cette émission de Montaigne Oisetteg avant que ça parte complètement en couille. Nous tenons quand même à souligner l'uniformité de l'émission d'aujourd'hui. Une émission qui est restée très cadrée, comme vous avez pu le voir, qui a parlé de thuggitude, puisque nous avons vu Monsieur Bertrand Fibien défier les lois de la vie. C'est ça être un thug. En échappant à la mort. Nous avons vu ces bactéries dont nous a parlé Monsieur Tabu. Défier les lois de l'alcool pour lui opposer une résistance et permettre à chacun de se bourrer la gueule sans être fatigué. Nous avons vu également que Madame Taubira était une thug parce qu'elle était une masochiste hindoue, si j'ai bien compris. Donc on a vraiment parlé de thug surtout de Mallarmé qui lui a défié les lois de l'écriture, de la syntaxe, de la logique pour nous livrer des textes complètement incompréhensibles. Mais c'est ça être thug. Et c'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons livré une émission qui partait en couille parce que nous sommes des thugs. Voilà la preuve par l'exemple.
Et dump it. The drama really means nothing to me. I ride by and blow your brains out. It's no time to cock it. No way you can stop it when niggas run up on you with them things out. I do what I gotta do. I don't care if I get caught. The DA could play this motherfucker, take me court. I'll kill you.
I ain't playing. Hear what I'm saying. Homie, I ain't playing.
Catch you slipping, I'ma kill you.
I ain't playing. Hear what I'm saying. Homie, I ain't playing.
Keep thinking I'm candy. Till your fucking skull get popped and your brain hop out the top like Jack in the Box. Yeah. In the hood, summertime is a killing season. It's hot out with this bitch, that's a good enough reason. I see gangsters get religious when they start bleeding. Say, Lord Jesus help me, cause their ass leak. When that window roll down and that AK come out, you can squeeze your little handgun till you run out. Then you can run for your backup. The machine gun shells gon' tear your back up. Guards on your side, shit, I'm alright with that. Cause we gon' reload them clips and come right back. It's a fact, homie, you go against me, you fuck. I get the drop if you could duck, you lucky under the lady luck. Look, nigga, don't think you safe cause you moved out the hood. Cause your mama's still around, dog, and that ain't good. If you was smart, you'd be shook at me. Cause I get tired of looking for you, spray your mama crib and let your ass look for me. This beat cockin' and dump it, the drama really means nothing to me. I ride by and blow your brains out. It's no time to cock it, no way to stop it. When niggas run up on you with them bangs out. I do what I gotta do, I don't care if I get caught. The DA could play this motherfucker, take me court, I'll kill you.
I ain't playing. Hear what I'm saying, homie, I ain't playing.
Catch you slipping, I'ma kill you.
I ain't playing. Hear what I'm saying, homie, I ain't playing.
My heart bleeds for you, nigga. I can't wait to get to you. Behind the twinkle in your eyes, I can see the bitch in you. Nigga, you know the streets tough, so there'll be no white flags and no peace talk. I got my back against the wind, I'm down the ride till the sun burn out. If I die today, I'm happy how my life turned out. See the shootouts that I'm being in them by myself. Locked up, I was in a box by myself. I done made myself a millionaire by myself. Now shit changed, motherfucker, I can hire some help. I done heard about the 50 grand you put in the hood. But your shooter finna get shot, it won't do him no good. With a pistol, I define the definition of pain. If you survive, the bones will still fucking hurt when it rains. Oh, you a pro playing battleship, but this ain't the same. Little homie, it's a whole different type of war game. See, the losers end up in shackles of motherfucking chains. Or laid out in the street, leaking out their brains. This beat cocking and dumping, the drama really means nothing to me. I ride by and blow your brains out. It's no time to cock it. No way you can stop it when niggas run up on you with them bangs out. I do what I gotta do, I don't care if I get caught. The DA could play this motherfucker, take me court, I'll kill you.
I ain't playing, hear what I'm saying, homie, I ain't playing.
Catch you slipping, I'ma kill you.
I ain't playing, hear what I'm saying, homie, I ain't playing.
After the fist fight, it's gunfire, boy, you get the best,
get the
of,
best
me.
Of me.
You don't wanna get shot, I suggest you don't go testing me. All the wrong I done, the law still keep my blessing me.
Blessing me.
Been the run rap, cause Dr. Dre got the recipe.
Recipe.
Yeah. Hey Dre, got me feeling real bulletproof up in this motherfucker. Cause the windows on my motherfucking beard is bulletproof, nigga. Cause my motherfucking vest is bulletproof, nigga. Cause my motherfucking hat is bulletproof, nigga. But the doc said if I get hit, I might get a fucking concussion. But better that than a hole in the head, right, nigga?